7h30, 9h30, Radio MDM.
Anthony Lecoq, Le jour se lève encore.
Le jour se lève encore.
Le jour se lève encore, à 3 jours de l'inauguration ce vendredi, rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan, du centre LGBT+, géré par l'association Nos Couleurs, pour lutter contre les discriminations homophobes et transphobes. En ce mercredi, décrété également Trans Day, le grand format du jour, le témoignage de Victoire, née voilà 29 ans dans la commune de Cona, en Chalosse-Tursan, mais jusqu'à il y a 4 ans encore, prénommée Ludovic à l'état civil, et qui a donc grandi dans un corps qui n'était pas le sien. C'est au printemps 2023 qu'entre les mains des chirurgiens, Victoire a pu achever sa transition et mettre un terme lumineux à un parcours éprouvant, semé d'errance, d'isolement, d'incompréhension et de désespoir, un chemin entamé au sein d'une famille recomposée où, dès ses premières années à l'école de Saint-Sevé, l'enfant se rêve en petite fille, littéralement.
C'était l'incompréhension au réveil. Je comprenais pas les demandes dans lesquelles j'étais, la réalité et ce que je vivais dans mon sommeil, on va dire, dans mes rêves.
Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cette petite fille?
En fait, elle faisait exactement la même chose que moi, mais en tant que petite fille, physiquement, quoi.
Et à l'école, vous me disiez que vous étiez envieuse des... Les premiers souvenirs.
Ouais. Depuis mon plus jeune âge, hein, j'ai ressenti ça, je pense, depuis mon premier souvenir sur Terre, quoi. Ouais. Parce que, ça avait toute détresse, ça avait toutes les trucs banals de filles, le truc rose, le petit cartable de filles, tout ça. Et ben, moi, je voulais ça aussi, en fait. Je m'identifiais à ça, et j'étais attirée par ces éléments-là, sans comprendre, mais en fait... Je comprenais quelque part que c'était pas normal en soi, si on peut appeler ça de la normalité, mais en fait sans mettre un mot dessus, sans comprendre vraiment ce qu'il en était au fond.
Et avec les garçons de votre âge, visiblement il n'y avait pas de soucis, non. C'était pas renfermé dans un coin.
Du tout, j'avais beaucoup plus d'amis filles que d'amis garçons, mais pour le coup j'ai pas vécu dans mon enfance d'enfant vraiment à l'adolescence de problèmes avec... des garçons, de moqueries, de rejets ou quoi que ce soit. Je me fondais plutôt bien dans la masse globale, quoi. Ouais. Mais j'étais plus proche des filles, quand même, ouais.
L'adolescence, c'est aussi le temps des premiers émois. Très vite, les choses se fondent naturellement ou vous comprenez que vous êtes plus attiré par les garçons?
Vraiment très jeune, avant même l'adolescence. Donc, arrivé à l'adolescence, les premiers amours, les premières fréquentations avec des garçons de mon âge, mais du coup gays, et l'horreur. L'horreur parce que je me sentais pas du tout à ma place pour le coup. J'étais pas attirée vers les filles du tout. Ben voilà, la première sexualité, tout ça, compliqué.
Même le premier amour, le premier garçon que vous avez connu, l'histoire a duré 3 ans,
ouais.
Entre 17 et 20 ans.
Ouais.
Même là, physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Effectivement. C'est vrai que je l'aimais pour la personne qu'il était et pour ce qu'il représentait. Mais par contre, effectivement, physiquement... et on peut le dire, sexuellement aussi, c'est vrai que je me sentais pas à mon aise et pas la bonne personne, quoi, par rapport à ça. Ça a duré 3 ans, mais à cette époque-là, j'identifiais toujours pas qui j'étais.
Ouais.
Donc du coup, je me disais, j'en suis même venu à un moment donné à me dire peut-être que t'es attiré par personne au final, ouais. Et que tu sais pas...
Asexué,
exactement. Ce qui m'aurait bien arrangé à l'époque. Hein. Parce que je voulais ni être gay et j'étais pas du tout... Enfin, j'assumais pas, hein. Personne savait, à part mes amis vraiment très très proches, mais j'ai pas du tout fait de coming out gay auprès de ma famille ou quoi que ce soit. Je l'ai jamais présenté à personne d'autre, ouais. Que nos amis communs. C'était un peu particulier, ouais.
Ouais. Et la famille dans tout ça, votre papa, votre sœur, votre belle-mère, ne décèle pas au milieu de cette adolescence tourmentée comme... Toutes les adolescences le sont, de...
On en parle
quelque
pas.
Chose, on n'en parle pas.
On n'en parle pas, en fait. On
n'en parle pas parce pas. Qu'ils ne veulent pas en parler ou parce qu'ils
parce
ne...
Parce que je ne veux pas en parler,
ouais.
Parce que je me renferme, parce que je m'ouvre quasiment pas et le peu, en tout cas, je masque et j'esquive toutes ces discussions-là et ça m'arrangeait bien. Et puis, j'ai compris bien plus tard que oui, ils se posaient des questions et qu'ils s'interrogeaient, qu'ils comprenaient pas. Mais à l'époque, non, on se parlait pas, on disait rien, quoi. Je ne disais rien et ils ne me demandaient pas. Je dérivais complètement, j'esquivais, je fuyais totalement tout type de conversation comme ça. Bon, voilà, mes amis proches, je leur disais oui, je suis gay, mais bon, voilà, je trouve pas de mec. En gros, c'était ça.
Ouais.
En fait, je voulais surtout pas avoir un mec gay parce que ça me dégoûtait pour moi. Hein. Je n'ai rien, enfin voilà, je suis totalement ouverte là-dessus, mais pas pour moi, quoi. Ouais. Ça me correspondait pas, en tout cas.
L'obtention du baccalauréat et le passage du lycée Montois à Bayonne, l'universitaire, n'y feront rien, bien au contraire. C'est même le début du calvaire, où l'isolement devient la seule solution pour éviter les interrogations des autres, sans répondre toutefois aux siennes. La dépression s'installe, s'accompagnant à seulement 20 ans de pensées morbides, pire que les pensées, les préparatifs au passage à l'acte.
Préparer ma mort, c'est très bizarre, hein. On écrit des lettres, on prépare sa tenue, on donne ses dernières volontés à 20 ans, c'est ignoble, hein. Alors qu'on n'a pas envie de mourir en soi.
Il manque la force de vivre, mais il manque aussi le courage.
Le courage, exactement. On m'a souvent dit, c'est courageux ton parcours, mais c'était surtout parce qu'à la base, j'ai pas eu le courage non plus de couper court à ma vie. Et tant mieux aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été compliqué. Et du coup, il fallait trouver des solutions qui étaient différentes. Donc, le suicide, du coup, s'est raté. J'ai choisi l'endroit, j'y suis allé, j'ai pas fait. Et puis du coup, je me suis dit, je me suis renseigné pendant des semaines sur le droit à l'oubli. Et là, je me suis dit, tant pis, ils vont souffrir, mais au moins, ils sauront pas. Ils sauront pas, et j'irai faire ma vie à l'autre bout du monde. Et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais être qui je suis, en fait, réellement. Ils me chercheront plus au bout d'un moment, quoi. Et puis, je sais pas, je l'ai pas fait. Et puis, l'opportunité, je me suis dit, pars à l'étranger, va voir un peu ailleurs. Peut-être qu'en fait, finalement, t'as peut-être juste besoin de t'ouvrir et d'assumer ton homosexualité. À Londres, c'est très cosmopolite. Donc, tu vas arriver à revenir en disant, c'est bon, je suis gay, en fait. Pas du tout, quoi.
Au lieu de ça, c'est presque le contraire qui se produit, c'est que vous revenez et une forme de déni, vous voulez vous engager dans l'armée.
À un moment donné, on se remet les pieds sur terre, et puis là je me suis dit je vais rentrer dans l'armée, et puis dans l'armée ça va me mettre bien carré et tout.
Alors pas du tout.
Et en fait pas du tout parce que ça me correspondait mais absolument pas. Et je pense que dans l'armée, j'aurais pas tenu 4 jours, quoi. On va pas se mentir. J'ai fait les tests et tout, hein. Mais une fois qu'on m'a dit, ouais, c'est bon, je suis là aussi. Et puis, j'ai trouvé un boulot ici, à Mont-de-Marsan. Donc, je me suis dit, mais là, ça y est, tu vas te lancer dans la vie. T'as un poste, t'as un boulot, t'as un CDI, t'es hyper normal, en fait. Puis les années ont avancé entre-temps, donc je m'étais dit, peut-être que finalement l'homosexualité, c'est peut-être une petite échappatoire de temps en temps si t'as envie de t'amuser, mais en me disant, je fais une croix sur ma vie sentimentale et sexuelle réelle, hein, ça sera peut-être de l'amusement de temps en temps. Puis j'ai voulu rentrer dans une vie totalement normée, réouvrir le tiroir, remettre toutes ces choses-là dedans. Sauf que, à cette époque-là, il existait aussi beaucoup de témoignages, beaucoup d'articles de presse, de démissions qui parlaient.
On commence à aborder le sujet autrement dans les médias.
Ouais. Alors déjà, quand je suis rentré de Londres, je me renseignais beaucoup. Et c'est vrai que je me retrouvais dans beaucoup de témoignages. Du coup, après, ça a continué pendant des années parce que j'essayais toujours de me dire « c'est peut-être pas vraiment ça ». Et puis, en fait, ça revient constamment. C'est plusieurs fois par an, c'est plusieurs fois par mois, c'est plusieurs fois par semaine, puis c'est tous les jours, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, le cerveau, il s'arrête plus. J'avais que ça en tête, et puis je pouvais plus masquer, quoi.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Un retour de Londres dans les Landes pour prendre enfin son destin entre ses mains et un rendez-vous chez une psychologue pour enfin parler de victoire à quelqu'un. Et à la première personne.
Ce jour-là, la psy m'a dit Victoire, elle a le droit d'exister aussi, en fait, à un moment donné. Et il faut qu'elle existe pour vous, en fait, parce que. Et je lui dis, mon bonheur va faire le malheur de tout le monde, en fait, va faire le malheur peut-être de dizaines de personnes dans ma famille. Enfin voilà, je pensais à ma grand-mère, je pensais à mon père, je pensais à, ben, à tous mes proches, ma sœur, mes amis proches qui je me suis dit, mais ils vont pas comprendre en fait. C'est pas qu'ils vont me juger, c'est qu'ils vont, ils vont pas comprendre. Je pense que leur monde va s'écrouler et je me suis dit, ben, sacrifie une personne, donc toi, ouais, plutôt que les autres, quoi. Ouais. Je lui ai dit, ça serait égoïste en fait de penser à moi. Et elle m'a dit, mais l'égoïsme, ça n'existe pas. Votre vie, elle appartient qu'à vous, donc si vous êtes heureuse, vos proches, ils seront heureux d'être, de vous voir heureuse, quoi. Donc, il n'y a pas d'égoïsme, en fait.
L'autre moment important, c'est une soirée, c'est votre anniversaire.
Ouais.
Il y a 4 ans.
Ouais.
4 ans, je crois que vous avez une amie qui est, on va dire, connectée. Je crois qu'elle est un petit peu, elle lit un petit peu dans les cartes.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Elle me dit directement, alors je ne saurais plus dire la phrase exactement, mais elle me cite une victoire directement. Elle me dit, Victoire, elle a envie de vivre, ou c'était un truc comme ça.
Et comment entend ça ?
Et là, et je lui ai dit, comment ça ? Elle m'a dit, mais tu es Victoire, il faut que Victoire, elle vive, parce que là, eh ben, ce soir-là, ben, j'ai pris tous mes amis, on devait être 25 ans, je pense, chez moi, hein, un par un, dans la salle de bain. Et je leur ai dit, voilà, je suis Victoire, ben, je suis transgenre. Donc,
les réactions.
Beaucoup d'émotions. Ma meilleure amie qui m'a dit, oh, mais c'était ça, j'ai pas compris pendant si longtemps, c'était ça. Et puis les deuxièmes, les autres amis, c'était pareil, ils me disaient, mais on sentait bien que t'allais mal depuis des années, que c'était pas toi. Et du coup, du soulagement presque pour eux. Ça s'est plutôt bien passé, ils l'ont tous annoncé à leur famille, eux, dès le lendemain, donc, parce que je connaissais aussi tous les parents, les grands-parents de la plupart de mes amis. Et ma transition, du coup, mon annonce a été hyper bien accueillie partout.
Des réactions plutôt bienveillantes. À partir de là, c'est le psy qui vous met en contact. Donc avec un spécialiste, il y a déjà début de traitement hormonal. Et c'est qu'à partir de là où vous en parlez à la famille.
Ouais, en fait, j'ai eu rendez-vous avec un psychiatre, parce que c'est on est obligé de passer par un psychiatre et non par un psychologue pour être validé. Puis il y a qu'un psychiatre qui peut valider et donner des ordonnances. Mmh. Et donc ce psychiatre me met aussi en relation avec une endocrinologue. L'endocrinologue, en fait, elle permet de prendre les hormones, elle permet, voilà, c'est le médecin par rapport à ça. Et donc, premier rendez-vous avec le psychiatre, je lui raconte toute ma vie, toutes mes pensées, qui je suis, je lui parle de Victoire directement. Et ben, j'ai mon attestation, en fait, à la fin du rendez-vous. Je revois l'endocrinologue, du coup, avec l'attestation, la délivrance, en fait, ouais, sur le fait que oui, je suis saine d'esprit pour pouvoir effectuer une transition. On me délivre les hormones et je décide pour ma famille de laisser passer les fêtes de Noël. Ouais. Donc, je commence mon traitement le lendemain de Noël, en fait, le 26 décembre exactement. Ouais. Et je l'annonce à mes parents, enfin, à ma famille, à mon père et à ma sœur individuellement. Le même jour, mais individuellement, à ce moment-là, quoi.
Réaction du papa. C'est pas un oui de façade, un oui inquiet aussi, mais inquiet pour vous.
Ouais, c'est que le jour où j'ai annoncé en fait ma transition, ben, mon père, première chose qu'il me dit, c'est hier soir à Bordeaux, une femme transgenre a été jetée du pont et elle est morte en sortie de boîte. Et donc, tu voulais me parler, ben oui. Ben voilà, et donc là, je lui lâche du coup la bombe. Et puis mon père, je pense que c'était un oui de façade, honnêtement, parce qu'il m'a dit, bah écoute, voilà, hein, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que je te dis, t'as 24 ans, je peux rien y faire. Bon, ben à plus, il est parti, quoi. Et ça a été un petit peu plus compliqué après, on va pas se mentir. Après, il a beaucoup culpabilisé, on s'est revus une semaine après, il m'a demandé de venir sous un faux prétexte, enfermé dans le noir, dans la maison, et il m'a dit, je comprends pas, pourquoi t'en as pas parlé, si t'es gay, y a pas de soucis, tu sais, voilà, je t'accepterai, tu seras toujours mon fils, nanana. Et je lui ai dit, mais papa, je suis pas gay, c'est pas ça. Il a pas trop compris et il a beaucoup culpabilisé parce que bah, du coup il s'est dit mais
j'ai raté quelque chose.
J'ai tout raté en fait. J'ai tout raté en sachant que mon papa nous a quasiment élevés tout seul.
Ouais. Il est pour rien.
Il est pour rien, mais sauf que lui il s'est dit mais là c'est un gros loupé.
Ouais.
L'inquiétude aussi c'est que mon papa a une entreprise, on n'est pas non plus d'un village où il y a...
on est en Chalosse.
Alors, voilà, on est en Chalosse. Hein. Donc le fils d'eux qui va devenir la fille d'eux, bah, il s'est dit comment moi je vais le gérer aussi, le regard des autres, beaucoup, c'est ce qui l'a inquiété. Et puis qu'est-ce qui allait m'arriver? Est-ce que j'allais pas me retrouver à la rue? Est-ce que j'allais pas me retrouver sans emploi? Et il s'est inquiété de tout ça, bah, c'est l'inquiétude d'un papa. Hein. Ouais. Donc ça a été des mois où c'était timide, mais j'avais ma belle-maman.
Ouais.
Et ma belle-maman qui a vécu 20 ans à Paris, qui est hyper ouverte et qui, elle, a vu les choses dans notre œil. Et d'essayer d'équilibrer, d'apaiser les choses. Ça a été compliqué aussi pour elle. Et de me dire, voilà, tu peux pas non plus trop imposer tout directement, quoi. Enfin, n'arrive pas en talon aiguille, mec.
Féminisiez pas devant eux.
Non.
C'est-à-dire qu'en même temps, vous apprenez à vous maquiller.
Ouais.
À vous coiffer.
Ouais.
À porter les talons.
Ouais.
Enfin, on passe de la chemise au chemisier.
C'est ça. Bah, en fait, donc j'ai commencé ma transition le 26 décembre. Le 20 mars, on était confinés, premier confinement. Donc, moi, je me fais virer.
Ouais.
C'est typique, hein, ça, c'était à prévoir.
On vous dit quoi au boulot? On vous dit c'est mieux pour tout le monde? C'est inentendable aujourd'hui, ça.
C'est complètement inaudible aujourd'hui. En fait, l'annonce, trois patrons, bien chalossés aussi. Hein. L'annonce, pas de soucis et tout, quel courage, nanana, pas de problème. Et puis, une semaine après, on me dit ouais mais tu comprends, on a une clientèle assez âgée, elle va pas comprendre, donc tu sais. Et puis après on me dit oui, tu voudras mieux ailleurs, on pourra pas t'apporter, enfin ils trouvent des excuses quoi en fait.
Ouais.
Et on me dit on va te proposer une rupture conventionnelle. Et puis non, en fait je suis en transition, en plein Covid, ouais. C'est pas le moment quoi. Et là, on m'a dit, c'est rupture conventionnelle, sinon on va te virer, hein, on va trouver un truc, on va créer la faute, hein, s'il faut, mais texto. Hein.
Fort heureusement, il demeure des personnes bien plus tolérantes et surtout bienveillantes. Exemple à la mairie de Mont-de-Marsan, avec cette exquise, agent du bureau d'état civil, accueillant Victoire, venue effectuer son changement d'identité, et alors au tout début de sa transition.
J'ai recueilli les attestations, les machins, et elle m'a dit, oui, normalement, il faut qu'on valide... commission, je sais plus comment elle m'explique ça, et puis elle me dit mais moi j'ai une femme devant moi. Elle a mis le coup de tampon, et puis une semaine après j'ai mon acte de naissance avec Victoire mentionné dessus dans ma boîte aux lettres. Et merci beaucoup à cette dame. Moi ça m'a fait du bien aussi, l'ego et tout ça, mine de rien, ça le valorise parce qu'on se dit je suis qu'au premier mois d'hormones qui font pas forcément les effets sur le corps, hein. J'ai pas de poitrine, j'avais pas tout ça. J'étais à la dépilation laser à l'époque, donc on voyait encore quelques traces, hein, de mon ancienne identité, on va dire. Et très bienveillante.
Avant d'entamer votre transition, il y a toutes les démarches où là, gros coup de froid, c'est qu'on vous dit, il y a 200 dossiers avant vous.
Ouais.
Et c'est dans 5 ou 7 ans,
ouais.
Avant d'envisager peut-être l'opération. Vous dites c'est juste pas possible.
Je peux pas parce que j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie d'avancer.
J'ai envie de me voir dans le miroir, ce que vous voyez. Vous m'avez dit je vomis littéralement en me regardant.
En fait je pleurais, je finissais par en vomir de me voir devant mon miroir, de me doucher. Et là quand je me suis dit tu prends pour 4 ans de plus, c'est pas possible quoi. Très, de toute façon, je l'ai exprimé à l'hôpital quand ils m'ont annoncé ça. J'étais avec mes parents pour le coup. Je pétais un câble, hein, suis barré. Je me suis barré en pleurant, une hystérique. Je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver.
Ouais.
En fait, j'ai commencé ça, mais au final, aujourd'hui, je me retrouve, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis pas vraiment une femme.
Je m'appelle Victoire, mais.
Je m'appelle Victoire, j'ai les cheveux, je peux me maquiller, je peux mettre une robe. Ouais, sauf que quand je suis nu, c'est pas Victoire, quoi. C'est pas moi. Mon corps, il me dégoûtait au possible. Et là, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire.
Et on est début 2023.
Ouais.
Coup de téléphone, mail, je sais pas.
Ouais.
On dit un désistement.
Je suis au travail. Et donc, c'est la coordinatrice de l'hôpital de Bordeaux qui me dit « Vous pouvez mettre une bouteille de champagne au frais. On a un désistement. » Et on a fait le choix. Au vu de votre santé mentale, hein, de votre désespoir, de votre...
De vous mettre sur le dessus de la pile.
De vous faire passer au-dessus. Tout en sachant aussi, alors j'ai pas eu non plus une faveur, on va dire, c'est que j'étais opérable en soi. Alors que d'autres qui auraient pu passer devant ne l'étaient pas ou pas encore. Et donc du coup, ils m'ont fait ce cadeau aussi de me dire c'est vous et c'est dans 3 mois quoi. Et on attend ce moment avec impatience. Je pense que j'étais la seule d'être aussi heureuse d'aller au bloc opératoire. mais j'y étais quoi. Et là, ma vie commençait quoi. Ma naissance.
What the world needs now is love, sweet love.
think that there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love.
Je me rappelle de la réaction, j'ai été opérée par un chirurgien et une chirurgienne, et la chirurgienne qui dit « Oh, waouh !» Et là, j'ai dit « Ah ben, je veux voir. » Moi, je stressais un peu, parce que je me suis dit « Si là, je me suis planté, de toute façon, c'est trop tard pour le savoir. Ouais. Si là, ça me plaît pas, si... »
C'était un « waouh » enthousiaste.
C'était un « waouh » enthousiaste, mais sauf que moi, j'étais pas très habitué de voir ce genre d'attributs, parce que c'est pas mon truc sexuellement. Et je me suis dit « Là, il est à toi, il est là, il sera là, viens. Donc, de toute façon, tu vas pas rechanger. » Et elle a eu ce « waouh » enthousiaste qui m'a fait déstresser. Et donc, on m'a dit « Vous voulez voir ?» Ben ouais. Ouais, je veux voir. Et effectivement, là, je me retrouve avec un miroir en train de contempler mon organe féminin. Et waouh, pareil, tout pareil. Et là, je me suis dit...
Tout est raccord, en fait.
Je suis une femme et je me sens à 100% pour femme, quoi. Là, sur le moment, je me dis, c'est ce que je voulais, c'est moi, c'est ce qui me correspond, c'est ce que j'attendais,
Je me sens légitime.
Je me sens, ouais. Ben, du coup, je devenais, pour moi, en tout cas, une femme légitime, parce que je concevais pas d'être une femme avec un organe qui était associé au corps masculin, quoi. Et donc, du coup, ouais, là, c'est victoire, une femme légitime en tant que femme. Et ça change tout, ouais. Ça change la vie.
Depuis 2 ans, depuis l'opération, je parlais des regards tout à l'heure, les regards des hommes aujourd'hui, les regards des femmes, qu'on peut imaginer jalouses, si je puis me permettre. Vous avez employé le mot de délivrance, l'assurance que vous pouvez avoir aujourd'hui, comment ça se passe?
Le regard des autres, on s'en accommode, j'ai envie de dire, et on s'en détache quand même pas mal. Aujourd'hui, j'ai pas nécessairement de problème en fait ou de mauvais regard avec les hommes en général, très bien, rien à dire. Après, avec les hommes dans la relation, en fait il y a surtout un gros tabou, ouais. C'est que très difficile pour un homme cisgenre, hétéro, normé, man alpha et tout ce qu'on veut, ouais. D'assumer que sa copine, elle est pas née en tant que victoire, quoi. Ça c'est compliqué.
Il y a cette délivrance, cependant. On va peut-être en profiter pour lancer un appel. Il y a quand même une chose qui n'a pas changé chez vous. C'est le chiffre, le premier chiffre sur votre carte de sécurité sociale, qui est toujours le 1.
Ouais, toujours. Et le M sur la carte d'identité, du coup. Ça passe au tribunal, donc il faut se justifier devant un juge, un peu comme si on était coupable. Coupable d'être soi-même et de vouloir vivre sa vie, sûrement. Effectivement, je suis tombée sur une juge à Mont-de-Marsan, j'espère qu'elle m'écoutera, hein, qui a trouvé ma demande illégitime, et puis qui m'a demandé des photos de moi avant, pendant et après, pour voir si vraiment il y avait un changement.
Vous en avez gardé ?
Ah oui, c'est important parce que ma vie, elle a existé avant. Ouais. Ma vie de femme, elle a peut-être commencé à 24 ans, mais je suis née comme tout le monde.
J'ai passé 24 ans, j'ai été un garçon.
Exactement, pendant 24 ans, j'ai vécu la vie d'un garçon. Ces souvenirs, ils existent toujours. Je veux dire, je ne vais pas les renier. Hein. Je n'étais pas victoire à 12 ans quand je jouais dans la cour de récré, ni à 15, ni à 8. Hein. Donc, à un moment donné, ça existait. Donc, je ne le renie pas. Je ne renie pas qui je suis. Je ne suis plus. Je suis victoire et j'aurais sûrement dû l'être dès la naissance. Mon histoire, elle commence comme ça. Donc, c'est comme ça. Et puis, pour cette juge, elle m'a demandé de me justifier, de me rejustifier, de refaire témoigner. J'ai fait témoigner toute ma famille. J'ai fait témoigner tous mes amis. J'ai fait témoigner mes patrons, mes collègues, de partout. De partout, j'ai dû lui transmettre des dizaines et des dizaines de témoignages. Et puis elle a estimé que j'étais toujours à même de changer d'avis. Ça, c'était avant mon opération. Et quand j'ai été opérée, j'ai relancé la demande. Elle m'a répondu que certes, j'avais été opérée, mais j'avais quand même eu un parcours rapide et j'étais quand même à même de toujours changer d'avis. Donc elle me demandait de consulter un psychologue qui est mandaté par le tribunal. Alors que j'en ai vu deux psy, puisque j'en ai vu un à l'hôpital de Bordeaux, un psychiatre et un psychiatre ici à Mont-de-Marsan pendant mes 3 ans de transition. Et du coup, elle a rendu ma demande caduque.
Je sais pas s'il y a un message à transmettre, à laisser. Je sais que vous, ça a été à 24 ans, des personnes à 60 ou 70 ans qui font leur transition. Parce que finalement, c'est se dire qu'il n'y a pas d'âge pour être qui on est, quoi.
Exactement. Il n'y a pas d'âge pour être soi et pour être heureux. La vie, elle appartient.
Heureuse.
Et heureuse, effectivement. Et la vie, elle appartient à chacun. Donc, et c'est mon expérience, mais quand on est heureux, les autres, ils sont là. Les vraies personnes sont là. Donc, tous ceux qui se sentent pas dans leur corps, pas bien, c'est pas forcément toujours évident. Ce sont des parcours qui sont compliqués parfois, qui peuvent paraître longs. Il faut juste être soi. Et puis, il y a beaucoup de monde, en fait, comme ça. Il y a des gens qu'on ne soupçonne pas, qui ont aussi fait des parcours. Il faut pas avoir peur aussi. Et puis, on est dans une génération et dans un monde où tout est possible. Et surtout, tous les réseaux, tous les médias, il faut aussi savoir en faire bon usage. Et en fait, au final, on peut venir du petit bled paumé, on peut être enfant d'artisan, on peut être enfant de cadre sup à Paris ou n'importe où. Un parent qui nous aime, il sera là. Des amis qui sont des vrais amis seront là. Et puis voilà. Et puis la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas, elle est faite d'imprévus. Transition ou pas, ça arrive à tout le monde aussi parfois. D'avoir une galère ou et puis les gens ils jugent tout le monde. Hein. Moi, j'ai des gens qui pouvaient me juger avant, qui me jugeront toujours pour ça, pour autre chose. Et je me dis, la vie des autres, elle appartient aux autres. Et moi, ma vie m'appartient à moi. Et elle n'appartiendra toujours qu'à moi. Je suis très heureuse et j'encourage vraiment toutes ces personnes qui s'interrogent ou qui ont besoin de faire cette démarche, d'y aller, de le faire à leur rythme, de se protéger et de le faire comme elles le sentent et pour elles. Surtout pour elles.
Merci Victoire.
Merci beaucoup.
I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Michelle Pfeiffer.